à voix nue. Cette semaine, Béatrice Leca rencontre Hélène Moucharzet. Ce soir, vivre sa vie.
Hélène Moucharzet, bonsoir. Vous avez créé il y a près de 30 ans le CERCIL, Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, à l'issue d'un parcours pas si classique. Enfant, vous n'avez pas voulu être la fille idéale de Jean Zay, ministre de l'Éducation du Front populaire, assassiné par la milice en 1944. Mais vous êtes une excellente élève. Vous devenez professeur de lettres et épousez les grands combats de votre époque, le féminisme, l'engagement contre la guerre d'Algérie, les idéaux de mai 68. Votre jeunesse est-elle assez joyeuse ?
Joyeuse, je ne sais pas. À certains moments, oui. Il y a eu des moments de combat, de manifestation, en particulier, je pense à 68, très joyeuse en effet. J'emploie plutôt le terme intense, intéressante, passionnante, très formatrice. Joyeuse, je ne sais pas, parce qu'il y a, vous savez, la phrase de Nizan, je ne dirai à personne que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Je l'ai éprouvé comme ça. La jeunesse n'a pas forcément, pour plein de raisons, été forcément sans nuages, au contraire, pour toutes sortes de raisons, mais un temps, certainement, oui, certainement.
Vous quittez Orléans, jeune fille ?
Oui, alors après avoir fait une hippocagne et une cagne, je pars à Paris faire mes études à la Sorbonne, études de lettres classiques, et ensuite j'engage le CAPES, enfin un parcours d'enseignante. Donc je n'habite plus Orléans, j'habite à Paris, d'abord dans une cité universitaire qui portait le nom de Jean Zay d'ailleurs, la cité universitaire d'Antony, qui depuis malheureusement a été rasée. C'était une des premières cités universitaires où il y avait des pavillons pour jeunes mariés. Et puis ensuite, j'habite rue Monsieur le Prince, au cœur du quartier latin, dans un studio qu'avait ma mère. Donc, c'est à Paris. Donc, je vais vivre toutes ces années 60. Dans les engagements qui ont été ceux de ma génération, la guerre d'Algérie, beaucoup, hein, avec des journées dont j'ai vraiment gardé le souvenir, le 17 octobre 61, par exemple, ou 62, les gens qui sont morts dans la station de métro Charonne, des manifs énormes et très intenses, avec tout. C'était des jours très sombres, la guerre d'Algérie. Moi, j'ai gardé aussi le souvenir du livre de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, qui décrivait ce que c'était que Paris à l'époque. J'enseignais ça d'ailleurs, je faisais lire ça à mes élèves. Enfin, c'était pas une période joyeuse ni heureuse, hein. C'était une période, et puis c'était la France qui il y avait la torture en Algérie, enfin je ne vais pas rappeler toute cette histoire, donc c'était, en même temps c'est vrai que c'était mes années de jeunesse, avec des découvertes de toutes sortes, puis ensuite il y a eu l'engagement pour la guerre du, enfin contre la guerre du Vietnam, pas de la même intensité, parce que il y avait moins de proximité avec le pays qui la menait, et puis il y a eu les débuts de l'enseignement, hein, qui pour moi, le métier de prof est un métier que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Vous décidez d'être professeur à quel moment ?
C'est pas vraiment une décision, c'est que je voulais à l'origine faire des études de philosophie, et puis à cause d'un prof qui m'a déçu en cagne, finalement j'ai fait des études de lettres classiques, et puis vous savez, à l'époque, quand on faisait des études de lettres classiques, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'être prof ? Donc, tout naturellement, si je puis dire, consciemment, ça mène au professorat. Bon, je ne vais pas vous dire que mes antécédents familiaux ne m'invitaient pas, disons, gentiment, mais je ne me suis pas sentie obligée ni quoi que ce soit.
En quittant Orléans, vous rompez avec tout, enfin vous rompez peut-être pas d'ailleurs, avec, en tout cas vous vous éloignez d'un milieu familial dans une ville qui a été extrêmement fidèle à votre père. Et est-ce que vous arrivez à Paris comme, d'une certaine façon, une anonyme ?
Oui, un peu. Même si j'habitais la cité universitaire Jean Zay, quand même, c'était pas tout à fait l'anonymat, mais personne ne le savait à l'époque. Oui, un peu, oui. Je quittais un milieu où j'étais peut-être sans doute trop connue, trop repérée, trop désignée. Hein, et dans un milieu beaucoup plus anonyme, oui, sans doute. Ce qui me faisait du bien.
Qui connaît votre histoire parmi vos amis, Et quand vous rencontrez votre mari, est-ce que vous lui dites tout de suite de qui vous êtes la fille ?
Bon, il le savait parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois en Hippocagne. Enfin, lui était en Cagne, moi j'étais en Hippocagne. C'était une petite Cagne, donc on avait des cours en commun. Donc c'est là qu'on s'est connus. Puis comme dit la chanson, on s'est perdu de vue et puis on s'est retrouvés. Mais ensuite, on s'est retrouvés à Paris puisque lui était très engagé, a été très engagé au moment de la guerre d'Algérie, dans le soutien, dans des engagements contre cette guerre qui était menée au nom de la France. Donc c'est à Paris qu'on s'est retrouvés, en effet, et donc on s'est mariés en 65.
Vous abandonnez votre nom, vous prenez le nom de votre mari, vous abandonnez le nom du père.
Je n'ai pas le sentiment d'abandonner un nom. J'ai le sentiment d'en prendre un, mais ça me réjouit plutôt. C'est plutôt quelque chose qui est bien. Ça n'a pas posé de problème et quand j'y repense rétrospectivement, je crois que ça participe à ce mouvement général, ce parcours général de ces années-là, de ces années 60, où j'ai un besoin vital de m'éloigner un peu de cette histoire. Et finalement, je n'ai pas le sentiment d'abandonner le nom de Zay. En revanche, je prends un nouveau nom. Et qui est le nom, par ailleurs, d'un poète et d'un écrivain.
Votre mari, Claude Mouchard.
Voilà.
Vous avez donc 25 ans quand vous vous mariez et vous allez avoir des enfants ?
Pas tout de suite. Mon premier enfant va naître en 70. C'est d'ailleurs l'époque où je quitte Paris pour venir à Orléans. Et puis le deuxième un peu plus tard, donc j'ai pas d'enfant tout de suite. Je suis très engagée pour toutes sortes de choses. Et puis il y a quand même ce fait important que mes premières années d'enseignement, alors c'est assez amusant parce que mon premier poste, je suis nommée à Illier. Et Illier, c'est près de Chartres, c'est le Combré de Proust. Où il y a, figurez-vous, pour un petit village ou une petite ville, il y a un lycée, ce qui à l'époque était exceptionnel, et qui s'appelle lycée Marcel Proust. Donc à l'époque, c'est assez amusant, parce que j'enseigne, donc, et à des petits bousserons qui me parlent de la vie trépidante des grandes villes. Enfin, et puis mon mari, là aussi, on a loué un petit appartement dans des conditions matérielles difficiles, avec les toilettes dehors, le froid. Mais enfin, on était contents, on était heureux. Et puis, on avait un peu une image dans la petite ville, c'est-à-dire moi je travaillais, lui il faisait les courses parce qu'il préparait l'agrégation par correspondance. Et donc c'était un petit scandale dans la ville, mais enfin ça c'est des détails amusants. Ensuite j'ai été nommée à La Haye-les-Roses, en banlieue parisienne, au sud de Paris. Et c'est là où un de mes premiers combats de prof, ça a été, donc juste avant le déclenchement de 68, une grève que les profs femmes ont engagée parce qu'on voulait avoir l'autorisation de venir travailler en pantalon. Or, c'était interdit, et j'ai appris depuis que c'était interdit par une loi napoléonienne qui n'avait jamais été abolie, et parce que ça défigurait les femmes. Enfin, et en fait, j'ai appris aussi plus tard que cette loi n'a été réellement abolie, je crois que en 2013 ou quelque chose d'hallucinant. Enfin, elle était plus respectée. Mais voilà, c'est vous dire l'ambiance de l'époque quand même. Parce que quand on parle de 68, pour comprendre cette explosion qu'a été 68 et d'énormément de gens comme nous, qui n'étions pas des militants politiques, hein, on n'appartenait à aucun parti politique, mais c'était quand même une atmosphère écrasante. Enfin, sur le plan social de la société de l'époque, de la situation faite aux femmes, de ces questions de la contraception, de l'avortement, qui pesait très lourd sur la vie des femmes, mais il y avait aussi une espèce d'ordre moral. Moi, j'ai gardé le souvenir de ces années d'avant 68 dans le tissu social, d'un couvercle qui pesait sur nous et surtout sur les jeunes, d'où cette explosion fantastique qui a été 68, qui a été une revendication de liberté, d'espoir, de liberté d'abord de la parole, Alors on a dit que 68 avait été une révolution de la parole. Oui, mais c'est important, une révolution de la parole. Parce qu'une des choses, moi, dont je garde le souvenir de ces années-là, on habitait donc Romesseul-Prince, on était au cœur des événements. Et les premiers jours, moi j'étais là, les premières manifestations, le 3 mai, la police venait d'arrêter des étudiants et d'occuper la Sorbonne, donc on se retrouve boulevard Saint-Michel, libérer nos camarades, et la police sortait de la Sorbonne. Ça a été le début. Tous les soirs, il y avait une manifestation. Alors là, une joie fantastique de se retrouver ensemble. Et tout ça, ces premiers jours de 68, ces manifs tous les soirs où on parcourait Paris à toute vitesse. Parce qu'on était déjà un peu dans les vieux à l'époque. Hein.
Ces combats, est-ce qu'ils étaient compris et partagés dans votre famille? Et je pense notamment à votre mère.
Oui, elle regardait ça d'assez loin. Puis on n'en parlait pas tellement. Elle devait avoir un petit peu de méfiance peut-être parce que de son passé quand même... tellement violent et tellement douloureux, elle a toujours gardé une certaine distance pour des engagements trop forts, trop... parce que pour elle, c'est ça qui avait été responsable quand même de son malheur. Et donc, à chaque fois que je manifestais un peu trop de... Mais avec toujours gentillesse, enfin, ça n'a... Mais fais attention quand même. Enfin, bon, c'est un réflexe aussi maternel, hein.
Mais d'un point de vue idéologique, est-ce que vous avez eu à affronter une sorte de fossé des générations ou pas du tout?
Non, parce que ma mère n'était pas engagée politiquement. Juste après la guerre, comme elle était la veuve de Jean Zay, et que le Parti radical a essayé elle a eu des responsabilités, mais plutôt associatives. Elle a été dans beaucoup de fédérations d'éducation populaire, en souvenir de mon père. C'est pour ça qu'elle partait souvent. Elle était dans les conseils d'administration des grands mouvements de la Ligue de l'Enseignement, etc., etc., ou les Pupilles de la Nation. Enfin bon, puisque j'étais pupille de la Nation, moi, comme ma sœur. J'avais une bourse donc pour faire des études, etc. Mais non, elle n'a jamais été nettement engagée. Donc, et puis, on était assez loin, on était à Paris. Donc, il n'y a jamais eu de... J'ai jamais eu le sentiment d'un fossé des générations de ce point de vue-là.
Vous parlez avec vos grands-parents encore à ce moment-là? Vous avez quel rapport avec votre famille restée à Orléans?
Je garde surtout le souvenir, non pas de discussion, mais d'une présence formidable. Les grands-parents, c'est une présence, une présence. C'est pas forcément des... Ils racontaient pas beaucoup leur passé, mais c'était plutôt ma grand-mère qui plantait des fleurs et tout, qui rempotait les pots, et puis mon grand-père qui était dans son fauteuil et qui essayait d'attraper les jeunes qui passaient bien. Donc là, voilà une présence très très rassurante.
Comment vous décidez de rentrer à Orléans, finalement, assez vite?
Oui, en fait, c'est assez simple. C'est que, donc après 68, il y a eu, pour moi, ce qui a été une grande aventure, c'est l'université expérimentale de Vincennes. Enfin, je rappelle que l'été 68, un peu pour se débarrasser de ce qu'ils considéraient comme les étudiants et les profs gauchistes, le gouvernement a fait construire à toute vitesse une université dans les bois de Vincennes. Expérimental, c'est-à-dire on expérimentait vraiment un département de psychanalyse que j'ai suivi, un département de théâtre, un département audiovisuel, tout ça n'existait pas à l'époque, un département de philo et en littérature, un département qui avait cette spécificité qu'enseignaient dans ce département des écrivains et pas des universitaires, des écrivains. C'est comme ça qu'avec mon mari Claude, on a fait la connaissance de gens magnifiques, de Michel Serres, de Michel Deguise, qui sont devenus vraiment des grands amis, des gens qui ont enseigné là. Et ça a été une aventure fantastique, à la fois intellectuelle, parce que, contrairement à ce qu'on pensait, cette université, c'était un foutoir pas possible, on occupait les amphis à tout bout de champ. Mais en même temps, on a travaillé. Moi, j'ai fait de la philosophie des sciences avec Michel Serres. J'ai eu une licence de philosophie de l'Université de Vincennes. Je ne sais pas ce qu'elle vaut actuellement, mais j'ai le diplôme. Bref, une belle expérience la première année. Ensuite, ça a un petit peu changé. L'ambiance à Vincennes a changé. Et puis, le temps a passé. On a décidé d'avoir un enfant. Et c'est là qu'on a quitté Paris Pour une raison essentielle, c'est qu'à Paris, on habitait un appartement où on ne voyait jamais la lumière du jour, ou presque, et qu'à Orléans, on avait la possibilité d'avoir une maison avec un jardin. Et donc, ça a changé tout. Et donc, c'est surtout cette raison-là qui nous a fait quitter Paris.
Il n'était pas question d'aller ailleurs qu'à Orléans ?
Ben non, je n'ai pas pensé du tout. Non, je ne me suis pas posé la question, vous me la posez, mais je ne me la suis pas posée à l'époque. Mais encore une fois, il y avait cette opportunité de pouvoir avoir un endroit pour habiter, un endroit qui était agréable, puisque c'est quelque chose, une maison qui venait de mon grand-père, dont ma mère avait hérité, et donc on a habité là.
Quel genre de prof étiez-vous, Hélène Moucharzet ?
J'ai beaucoup aimé ce métier, même si je ne me suis pas toujours entendue avec l'administration. À tel point qu'après 68, plus aucun inspecteur général ne vient me voir parce que j'avais refusé l'inspection générale. Mais j'ai beaucoup aimé ce métier et surtout, alors j'ai enseigné en collège, en lycée et puis après à la fac. Mes meilleurs souvenirs d'enseignement pur. C'est le collège, un collège où j'étais dans une banlieue orléanaise un peu difficile. Et moi, ce qui m'a passionné dans ce métier, c'est, dans la mesure où je pouvais le faire, de contribuer à faire émerger le génie, au sens premier du mot, que chacun a. Simplement, on leur demande de l'exercer dans d'autres domaines que celui où ils peuvent s'exercer. On ne trouve pas là où ils peuvent déployer leur talent. Et donc, moi, dans le domaine qui était le mien, je me souviens toujours, je prends un exemple très précis, au collège de l'Argonne à Orléans, j'ai eu en cinquième une classe, et en particulier un petit Mohamed, qui était incapable d'écrire trois lignes à la suite, du point de vue de la syntaxe et de l'orthographe, c'était quasiment impossible. Et c'était assez répandu, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, j'ai lu un livre d'un Américain dont j'ai oublié le nom, et qui, c'était le début des ateliers d'écriture, enfin du fait de faire écrire des gens d'après des contraintes. Je pense qu'il n'y a rien de pire quand on est prof et qu'on veut faire écrire les élèves que de s'adresser à leur spontanéité, parce que là, on a les pires stéréotypes. En revanche, quand on leur donne des contraintes, on peut arriver à quelque chose. Bref, ça a été un long travail et je me souviens toujours qu'une fois et un jour, je les ai fait travailler sur le thème de la vantardise. Je dis bien vantardise. On se vante quelque chose qu'on ne sera jamais. Et le petit Mohamed m'a fait un poème de 4 pages, éblouissant, d'images poétiques. Je ne sais pas d'où il sortait ça. Et ça m'est resté. Et les autres aussi. Enfin, moi, lui, c'était le plus beau. D'ailleurs, je l'ai gardé, ce poème. Mais on pouvait faire ça avec la musique, on pouvait faire ça avec du jeu dramatique, ce que j'ai fait après 68. C'est-à-dire, dans ces années 70, j'ai mis à profit ce que j'avais appris à Vincennes, à l'Université expérimentale de Vincennes, en matière de jeu théâtral, en matière d'atelier d'écriture. Et ça a été une liberté d'enseignement très grande, avec le fait que c'est là où j'ai connu d'abord une vraie... entre l'équipe de profs, un vrai travail collectif, et puis ce sentiment qui est très fort, je crois, chez les profs, dans des moments de désespoir qu'ont tous les profs, mais qu'est-ce que je fais ? J'y arriverai jamais, j'y arriverai pas. Si vous touchez un élève ou deux élèves, vous n'avez pas perdu votre temps.
À ce moment-là, dans l'espace public, on pourrait dire, quelle est la place de la Shoah ?
Dans les années 60, alors, il y a la grande date du procès Eichmann en 61, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais c'est en Israël. Hein. On a dit que c'était le Nuremberg d'Israël. Donc ça, un retentissement, ça. Je me souviens de ce moment-là, ce procès, des images aussi très, très frappantes. Mais je crois dans la mémoire collective, continue à dominer la mémoire d'abord de la résistance. Et en ce qui concerne la déportation, on ne fait pas la différence entre la déportation résistance et la déportation juive. La meilleure preuve peut-être, c'est la fameuse chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, qui date de 1963. Et si vous l'écoutez bien, cette chanson, C'est une chanson de la déportation, c'est pas là une chanson de la déportation juive, il n'est pas question de la Shoah, il est question du parcours pour aller en camp de concentration, il est question du camp de concentration. Il y a juste une énumération de prénoms où il y a un prénom juif, Salomon, si mes souvenirs sont bons, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'époque où la spécificité de la déportation juive et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée en France, à savoir avec la complicité du régime de Vichy, ça n'est pas encore présent dans les années 60, dans la mémoire collective, et dans la mienne non plus, y compris par le biais de mon histoire personnelle.
C'est les années où paraissent le chagrin et la pitié, et où Pierre Mendès France parle notamment de votre naissance. Est-ce que vous avez appris des choses avec ce film ?
Ah oui, bien sûr que j'ai appris des choses. D'abord, l'ensemble du film, et puis même sur ce témoignage de Pierre Mendès France. Alors, peut-être il me l'avait dit quand il venait dans ses visites, mais là, j'ai vraiment réalisé ce que c'était, parce que je pouvais mettre ça en rapport quand même avec... j'avais un petit peu avancé, même si j'avais pas encore mis l'œil dans les archives vraiment, hein, mais... oui, le chagrin et la pitié, ça a été un moment important, mais dans la mémoire collective aussi.
Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez vu ce film pour la première fois ?
Non. Non, mais je crois que j'ai dû le voir à la télévision, je crois. Je crois, oui. Je suis à peu près sûre même que je l'ai vu à la télévision, même si je crois qu'il a été... Enfin, j'ai pas de souvenir de la première fois. Mais j'ai souvenir du film, oui, de ces images de Mendès. Et je réalise que finalement, je réalise qu'a été les circonstances exactes de ma naissance, très précisément. Et que, ben, comme on disait, c'est Mendès France qui m'a tenu dans ses bras avant mon père. C'est d'ailleurs ce qu'il lui dit quand il arrive à le rencontrer à la prison de Clermont-Ferrand, où ils avaient... inventer un stratagème pour se voir. C'est là qu'il lui raconte les circonstances de ma naissance, et j'ai appris beaucoup de choses dans ce film, oui, tout à fait.
À ce moment-là, vous êtes adulte, votre sœur Catherine, qui est un peu plus âgée que vous, est adulte évidemment aussi. Vous en parlez ensemble ?
Non, très peu. Il y a eu... Enfin, je ne sais pas comment nommer ça. Alors, elle, à l'époque, elle... Il y a un événement important dans l'histoire familiale, c'est la fondation d'une librairie qui s'appelle Les Temps Modernes, en souvenir de Sartre. Et ça, c'est, si mes souvenirs sont bons, le début des années 60. J'habite à Paris, mais très souvent, alors on participe beaucoup à la fondation de cette librairie qui a été rendue possible par des dommages de guerre, puisque l'imprimerie du journal de mon grand-père Zay avait été bombardé, donc il y avait des dommages de guerre. Donc, il y a une discussion familiale, qu'est-ce qu'on fait de ces dommages de guerre ? Est-ce qu'on reprend un journal ? Est-ce qu'on... Finalement, c'est une librairie qui a été choisie. Et ça aussi, ça a été une période assez exaltante. Fonder une librairie, c'est magnifique. Puis après, c'est ma sœur qui s'en est occupée complètement pendant des années et des années. Mais on a... Et elle était plus engagée dans la mémoire paternelle que moi. C'est-à-dire qu'elle, il y a eu une espèce de continuité. D'abord parce qu'elle est restée à Orléans tout le temps, je pense qu'elle était très proche de ma mère. D'ailleurs, elle est venue habiter très tôt, assez vite, dans la maison familiale. Elle n'a pas eu ces 10 années, finalement, d'éloignement que j'ai connues. Et puis, elle s'est engagée beaucoup, par exemple, je prends juste un exemple, dans la réédition du livre « Souvenirs et solitude ». Il y a toute une histoire. D'ailleurs, il y a une étudiante à la fac d'Orléans qui est en train de faire un mémoire de maîtrise là-dessus, parce que ça a été une véritable aventure. Et puis, étant très proche de ma mère, elle était avec elle beaucoup dans les commémorations. Moi, je me suis éloignée de tout ça dans ces années 60.
Hélène Moucharzet, vous allez fonder dans les années 90 le CERCIL, le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Dans les années 70, 80, qu'est-ce que vous savez des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande où ont été internés des milliers de Juifs en 1942 ?
Et qui, il faut le redire, et comme le dit Klarsfeld, est un des paroxysmes de la solution finale en France. Donc, j'en sais à peu près rien, pour une double raison. D'abord parce que dans mes études, secondaire, on m'en a jamais parlé. Ensuite, mes études supérieures, j'ai pas fait des études d'histoire. Ensuite, parce que dans la mémoire collective, bon, ma mère était invitée à peu près tout ce qui se faisait comme commémoration concernant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'un pèlerinage, comme on l'appelait à l'époque, avait lieu chaque année au mois de mai à Pithiviers, à Bonnerolande. Jamais elle n'avait été invitée. Elle connaissait très bien, d'ailleurs, et j'ai fait le rapprochement après, le maire de Bonnerolande de l'époque, Cabanis. Elle était très bien. Elle le connaissait très bien, qui avait été très mêlé à l'histoire du camp, puisqu'il était directeur de l'hôpital en même temps, et qu'il a été démis de ses fonctions parce qu'il était marié à une juive. Enfin, il a une histoire. Sa veuve venait à Orléans. Moi, je me souviens très bien de Madame Cabanis, mais je ne savais pas du tout son histoire. Donc, je n'en connaissais rien. J'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que au fur et à mesure de cette remontée de la mémoire, et je pense en particulier à ce qu'a été un événement, quand même, c'est la diffusion du feuilleton Holocauste, du feuilleton américain, qui a été une révélation pour, quoi qu'on pense de la qualité du film, mais ça a été une révélation pour beaucoup de Français qui regardaient semaine après semaine, qui racontaient l'histoire de deux familles juives. Et c'est dans ces années-là que, peu à peu, il y a une remontée de la mémoire de la déportation juive. Et donc, moi, globalement, je participe à ce moment-là, mais j'ai pas du l'existence de ces camps, je la connais à peu près pas.
Hélène Moucharzet, merci. Peut-être, en fait, pour vivre sa vie, fallait-il ne pas trop regarder derrière soi. Et pourtant, certaines forces souterraines travaillent. Pithiviers et Bonnerolande ne sont encore que des noms ordinaires de petites villes du Loiret pour la plupart des Français. Cette mémoire est presque entièrement enfouie. Vous allez la révéler, avec d'autres, comme un écho à votre propre histoire. Ce dont nous parlerons demain. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béatrice Leca avec Hélène Moucharzet. À voix nue, réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Valérie Lavalard, attachée de production Daphnia Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.